Nous allons ouvrir le Saint-Livre dans Ésaïe. Je pense que les prophéties étaient inspirées. Dans Ésaïe, d'abord au chapitre 26, au verset 3. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Il est parlé d'une catégorie de chrétiens qui ont certains sentiments. Les sentiments, ce n'est pas des émotions, c'est des pensées, bien sûr. Ésaïe 26, verset 3. Ce matin, je vais parler sur la paix, qui est un fruit et un don. Et je vais également parler sur la colère de Dieu. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, donc c'est dans ses pensées, ce n'est pas les émotions, je répète. Tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Amen. Bien avant, dans le chapitre 9, le prophète annonce une grande pensée, Ésaïe 9, verset 8-23. Vous savez que dans quelques jours, on va fêter Noël. Noël, ça veut dire la nativité. En vérité, ça parle de la naissance de Jésus, même aujourd'hui, si ça ne veut plus rien dire. Ésaïe 8, 23. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » Verset 1er du chapitre 9. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » Verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. La volonté de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que vous ayez la paix. Dans Romains, au chapitre 2, on va le lire s'il vous plaît, il y a beaucoup de textes qu'on pourrait lire ce matin, parce que j'ai à cœur plusieurs textes, j'aimerais les citer en tous les cas. Dans Romains, au chapitre 2, l'apôtre explique, inspiré par le Saint-Esprit, que la colère de Dieu va se révéler. Nous sommes dans le temps de la grâce. D'abord au chapitre 1er, au verset 18, il est clairement dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » Mais ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 4 du chapitre 2. Romains 2, verset 4, nous allons lire jusqu'au verset 11. Mes frères et sœurs, ce sont des choses sérieuses. Parce que si vous n'avez pas la paix, c'est qu'il y a un problème vraiment. Et il faut le régler. Et Dieu nous aidera. Romains 2, verset 4. « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité ?» La longanimité, c'est la patience dans la souffrance. « Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, ça veut dire un cœur qui refuse de changer, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le jugement, je vous le dis, il sera juste, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Amen. On pourrait lire dans Romains au chapitre 3, le verset 5. Romains chapitre 3, verset 5. « Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ?» Alors sur la colère, j'aimerais quand même lire un ou deux versets. J'en avais mis un dans Romains. Romains 5, il y a énormément de textes sur la grâce, c'est ce qui nous intéresse, et il y a beaucoup de textes sur la colère, c'est ce qui nous fait réfléchir. Romains 5, verset 9, il parle de cette justification que nous obtenons par le sang de Jésus-Christ et par la repentance. Romains 5, verset 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ? Vous entendez, mes frères et sœurs ? Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, je ne dis pas quelqu'un qui est devenu évangéliste pour changer de religion avec sa dénomination passée, qui voulait changer pour changer. Non, si nous ne naissons pas de nouveau, nous n'entrons pas dans le royaume des cieux. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ vraiment par une profonde repentance, il a compris que Jésus était Dieu. Vous vous rappelez la première fois où Jésus parle de l'Église ? La première fois où Jésus parle de l'Église, il le dit lorsque Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, répond à la question que le Maître a posée, « Qui dit-on que je suis ?» Il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répond, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. » L'Église est la véritable Église, parce qu'il y a des centaines de dénominations qui se réclament être l'Église de Jésus-Christ, mais quand on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous savez ce que l'apôtre Jean dit de ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que c'est la religion de l'Antéchrist. C'est un des signes de la fin des temps. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, seront sauvés de la colère. La colère, elle vient. Tout ce que vous voyez aujourd'hui sont les prémices de la colère. Je le dis, mes frères et sœurs, parce que je suis attristé, vraiment attristé, quand je vois des chrétiens qui ont peur du lendemain. Mes frères et sœurs, nous sommes devant Dieu. Vous priez pour que Dieu m'inspire. Je dois veiller sur vos âmes dont je devrais rendre compte. Ma responsabilité, c'est que la volonté de Dieu ce matin consiste à faire en sorte que lorsque nous sortirons de ce lieu de culte tout à l'heure, nous ayons retrouvé la paix ou que notre paix que nous ayons augmente. Est-ce que la paix peut augmenter ? Oui. Est-ce que nous pouvons perdre la paix ? Oui. L'avez-vous déjà perdue ? Oui, tous. Tous, on a fait une erreur, un manquement, une faiblesse, un péché, etc. Nous avons perdu la paix et la parole de Dieu, elle est concise. Recherchez la paix. Parce qu'on peut la perdre. Vous êtes malheureux quand vous la perdez ? Oui, on est tous malheureux. C'est quelque chose qui nous afflige. En plus, on se met en difficulté parce qu'on va avoir du mal à aider les autres. Vous l'avez déjà vu, ça. Les gens n'ont pas toujours l'honnêteté de nous le dire. Mais si nous avions eu jusqu'où on peut aller, mais cet esprit de vérité, chaque fois que quelqu'un ne nous a pas procuré la paix, chaque fois que quelqu'un vous a agacé ou irrité, ça vous est déjà arrivé ? D'agacer quelqu'un et qu'ils vous le disent ? Tiens donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que vous l'avez dit chaque fois à quelqu'un, tu m'irrites ? Est-ce que les gens vous le disent ça ? Est-ce qu'on ose le dire aux gens ? Ben non ! Est-ce qu'il faudrait le faire ? Est-ce qu'il faudrait le faire ? Chaque fois que quelqu'un, bon, votre femme le fait, je suppose. Ouais. Enfin, moi, je l'ai dit. Mais c'est bien ! Est-ce que c'est bien si les gens vous disent « Mais écoute, t'es irritant en ce moment. » Ben moi, je crois que ça serait bien. En tous les cas, on gagnerait du temps. Vous ne croyez pas ? À celui qui est ferme dans ses pensées spirituelles, bien sûr, puisqu'il faut aimer Dieu de toute sa pensée, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Le diable est un voleur. Jésus l'a taxé de voleur pour que nous comprenions bien que c'est grave de perdre la paix. Mais vous savez, on peut vous avoir volé quelque chose que vous n'utilisez pas. Et vous vous en rendez compte 15 jours après. Est-ce que ça peut arriver, ça ? Ben oui, mais là, ça devient inquiétant. C'est archi inquiétant. Quand on ne sait même plus si on n'a plus la paix. Donc, mes frères et sœurs, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est un don. Je vous donne ma paix. Ce matin, vous pouvez l'apprendre. Parce que s'il y a quelque chose qui doit caractériser une église, c'est que la grâce et la paix soient notre partage. Oui ou non ? Dans une église, s'il y a quelque chose qui devrait nous caractériser, c'est la paix. Et quand vous voyez les églises aujourd'hui, combien elles ont l'immense honneur de scandaliser le monde, vous avez vu ce qui se passe dans les églises ? Les églises aujourd'hui sont des scandales. Mais nous, nous sommes ici, Dieu nous a placés dans cette assemblée, et mes frères et sœurs, je vous pose la question, avez-vous la paix ? Avez-vous cette paix qui surpasse l'intelligence, cette paix qui fait que eh bien, quand on a un enfant de 3 mois, eh bien, on n'a pas peur du lendemain parce qu'on sait que Dieu protégera notre famille. Gloire à Dieu. Parce que Dieu protégera ma maison, parce que Dieu me protégera. Dieu s'est engagé, il n'a pas prononcé des paroles en l'air quand il dit que votre cœur ne se trouble pas, quand il dit n'ayez pas peur du lendemain, c'est parce qu'il s'engage à prendre soin de nous. Si Dieu nous a donné son Fils au calvaire, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Mais encore reste-t-il à prendre ce qu'il nous donne. La colère, elle vient, vous le savez. Je voudrais encore vous lire un texte ou deux. On l'a lu. Nous serons sauvés de la colère. Dans Éphésiens, au chapitre 5, juste après, l'apôtre en parle aussi dans plein de textes. Et je vous encourage à relire les textes sur la colère et sur la grâce. Qu'est-ce que vous préférez lire ? Les textes sur la grâce ou les textes sur la colère ? Je sais que vous n'êtes pas obligé de répondre. Éphésiens, chapitre 5, regardez. C'est important, mes frères et sœurs. Éphésiens, chapitre 5, verset 6. Sachez-le bien. On va lire le verset 4. Parce que c'est quand même inquiétant quand on voit des chrétiens qui ne se rendent même pas compte que certains comportements sont graves. Qu'on n'entende ni paroles grossières. Ça vous arrive d'être grossier ? Ben non, un chrétien, non. Si vous êtes chrétien et que vous êtes grossier, je vous le dis, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes croyant. Parce que des fois, moi je pense que mais de l'estrade, il faut que les choses soient bien claires. Des fois, on est trop théologique ou très théorique. Je le répète, si vous êtes grossier, vous n'êtes pas chrétien. Est-ce que je l'ai dit clairement ? Voilà, si vous dites, oh ça m'a échappé, oh, c'est... eh bien oui, ça vous a échappé, c'est que ça prouve ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Les blagues à deux balles là, vous savez ? Est-ce que je le dis clairement en français courant ? Bon. Vous savez, c'est important de prendre le nom du Seigneur en vain. On en a parlé un peu la dernière fois. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu, elle vient. Je vous le répète, mes frères et sœurs, parce que j'ai tellement vu de chrétiens qui, des fois, ils me posent des questions, mais vous savez, des questions théologiques, et puis, paf, dans la discussion, vous entendez les saintes lettres. Moi, je crois qu'avant que vous vous posiez des questions théologiques, nous ferions tous mieux de voir si notre communion avec Dieu, elle est réelle, si cette paix que Dieu donne, il est le prince de la paix. Si Jésus est avec vous, vous avez la paix. Alléluia. Si vous n'avez pas la paix, recherchez-la. Interrogez-vous. J'ai perdu la paix, je me suis attrapé avec mon épouse. J'ai eu des paroles blessantes ou j'ai mal parlé à un collègue. Eh bien, demandez-lui pardon. Je me souviens d'une sœur qui est partie. J'aurais dû la reprendre. Vous voyez, des fois, et je vous dis ça parce que des fois, on ne sait pas comment faire, même quand on est pasteur. Je me souviens une sœur qui était venue à la maison et elle nous a dit « Voilà, je me suis disputé avec mon chef de service et voilà, et bien demain je me mettrai en maladie, je vais prendre une semaine de maladie, voilà, j'irai pas au boulot. » Vous voyez, j'ai rien dit. Je ne savais pas quoi dire. Vous savez, des fois, c'est tendu, des fois, les noms, c'était compliqué. Et cette sœur, bien sûr, elle s'est éloignée. Mais ça serait aujourd'hui, je dirais, mais écoute, ma sœur, tu t'es attrapée avec ton chef de service, ben, ça peut arriver. Ben, appelle-le, ou demain matin, la première chose, offre-lui le café et demande-lui pardon. En plus, voici un péché, ça ne va jamais seul. Vous voyez, en plus, elle a menti, elle a volé la sécurité sociale. Il ne faut pas s'étonner que des chrétiens rétrogrades. Parce que quand on... vous voyez, je veux être honnête. Vous voyez, moi, dimanche dernier, j'ai bronché dans ma prédication. J'ai bronché. Mais je vous demande pardon. Et je pense que ça peut nous arriver. Mais je crois que si on a le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit nous conduit. Et si vous vous êtes attrapé avec un supérieur ou une subalterne, eh bien, demandez pardon. Parce que quand même, il me semble qu'il n'y a rien de plus beau qu'une église qui marche dans la paix. Parce que mes frères et sœurs, si nous perdons la paix, il y en a un qui va s'occuper de nous éloigner du Seigneur. Dieu donne la paix, il est le prince de la paix. Il n'y a que Dieu qui donne la paix, il n'y a que Jésus-Christ qui donne la paix. Et nous pouvons terminer ce culte en disant, Seigneur, je fais un acte de foi, j'ai besoin de paix, je veux procurer la paix dans l'église où tu m'as placé, je veux procurer la paix à mon épouse, à mes enfants, aux gens que je côtoie. Heureux ceux qui procurent la paix. D'autant plus que nous sommes dans cette année de grâce. Vous vous rappelez le premier sermon de Jésus ? Luc chapitre 4, Jésus se rendit à Nazareth, dans la synagogue. Regardez bien, mes frères et sœurs. Lorsque, vous voyez, moi, je bronche en parole. Jésus n'a jamais bronché, vous le comprenez bien. Chaque mot était conduit, inspiré. Et il arrête son sermon dans la synagogue de Nazareth, en plein milieu d'une phrase. Luc, chapitre 4, verset 17. Ça devait être merveilleux, ça. Qu'est-ce que j'aurais donné pour voir ça? Luc 4, verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Là, il y a un point, mais dans Ésaïe 61, la phrase se poursuit avec « Et un jour de vengeance » de notre Dieu. Mais Jésus termine son discours, sa lecture. Je vous rappelle que Jésus était Dieu et que tout ce qu'il a dit était précis. Il n'a pas oublié de lire la suite. Il est venu pour instituer la grâce. Qui dit la grâce dit la paix. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il est venu, il n'est pas venu pour un jour de vengeance. Il parle d'une année de grâce. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce pour pas longtemps. Ce matin, quand je priais, il y a deux versets, un de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui se sont imposés à mon cœur, quand Dieu dit « il n'y aura plus de délai ». Je ne sais pas pourquoi si ces versets se sont imposés à mon cœur. C'était pour moi, je ne sais pas, en tous les cas, je vous le dis. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement des prophéties. Autant dans l'Apocalypse que dans le prophète Ézéchiel, dont ça concerne l'Église, ça concerne le peuple juif. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des moments où Dieu dit « stop ». Nous sommes dans la grâce aujourd'hui, 16 décembre 2018. Mais personne ne peut dire si le 16 décembre 2019, le monde sera dans la grâce, croyez-moi. Et ce n'est pas une question de mettre la pression, parce que des fois on nous le dit ça, ouais faites attention de ne pas culpabiliser, de ne pas mettre la pression à l'église. Écoutez, je pense que Dieu me reprenne plutôt que j'en arrive là un jour. Mais je pense que s'il y a plein de textes sur la grâce, c'est que Dieu veut que l'on vive dans la grâce et dans la paix, et que les chrétiens ils ont le devoir de se poser la question, qu'est-ce qui fait obstacle à ma prière ? Est-ce que justement, je suis léger? Parce que c'est grave. Moi, vous savez, une des choses qui m'a le plus blessé en 20 ans ici, vous savez ce que c'est? C'est quand mon fils, Jonathan, mon fils, c'est pas toi qui m'as blessé. Mon fils, Jonathan, il vient me voir, ils étaient avec Lucas tous les deux. Il me dit, tu sais papa, tu sais les gens qui sont pas pareils quand ils sont avec nous et quand ils sont avec toi. Pas tous. Et moi, ça m'a fait vraiment drôle, ça. Vous trouvez pas que c'est drôle? Non? J'aurais pas dû le dire. Mais enfin, quand même, frères et sœurs, vous trouvez pas que c'est bizarre, ça? Qu'est-ce que vous diriez si avec vous, j'étais poli, courtois, et que vous sachiez qu'avec les gens inconvertis, qui ne savent pas que je suis pasteur, je suis autrement? Qu'est-ce que vous diriez de moi? Que je suis un hypocrite. Voilà, vous l'avez dit, c'est bien. Mais mes frères et sœurs, je crois que s'il y a bien quelque chose que Dieu demande, c'est que l'on soit vrai. Partout. Partout, frères et sœurs. Nous avons un Dieu de grâce. Jésus présente son ministère de la façon la plus merveilleuse et plus formidable qui soit. Je suis venu présenter une année de grâce. Et il s'arrête. Mais le jour de la colère vient. Nous sommes épargnés de la colère. Les chrétiens, je le répète, ne connaîtront pas la colère. Un autre texte, dans les Thessaloniciens, où justement Jésus parle, dans la première épître, c'est l'enlèvement de l'Église. La deuxième épître des Thessaloniciens nous parle surtout du retour de Jésus-Christ. Nous sommes épargnés de la colère. Il faut bien que nous le comprenions. 1 Thessaloniciens, on va lire du verset 13. On va la lire. C'est important des fois. Des fois, on n'ose pas alourdir la prédication par trop de lectures. Mais là, il me semble que c'est à propos et qu'il faut que nous lisions ce texte parce que beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. Beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance en ce qui concerne beaucoup de choses. Paul le dit souvent, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Et si nous sommes dans l'ignorance, c'est vraiment notre faute. Ça peut être la faute du pasteur, mais là, je pense qu'on a, si on a la Bible, si on sait lire, c'est tous de notre faute. Est-ce qu'on a tous la Bible? Oui, on a tous la Bible, dans notre langue. On a tous le même Seigneur. Je veux bien croire que nous, les pasteurs, nous manquons dans certains domaines, mais nous avons quand même tous la Bible et personne ne devrait être ignorant. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, dont ça c'est l'enlèvement, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous pouvez dire, oui, merci. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. L'apôtre Paul utilise cette image d'une femme enceinte qui, au fur et à mesure que l'enfant approche, les douleurs se rapprochent aussi. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous entendez? Mais vous, frères, sœurs, bien sûr, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car, regardez bien, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Alléluia. Dieu protège l'Église. Il la protège et il donne la grâce et la paix. Il est le prince de la paix et faites attention à tout ce qui peut vous enlever la paix. Les soucis du siècle. Vous avez vu, mais c'est écrit en plus. Combien c'est clair. Ça ne peut pas être plus clair. Le Seigneur a utilisé que des mots simples en plus. Parfois, nous pouvons utiliser un mot un petit peu plus sophistiqué, j'en conviens. Mais tous les mots que Jésus a utilisés, alors qu'il connaît toute la langue, toutes les langues, il n'a utilisé que des mots simples pour que nous comprenions l'Église n'est pas destinée à la colère. Un chrétien, il sait ce qu'il doit faire dans ce texte et dans d'autres, où il nous est parlé du retour de Jésus, il nous dit qu'il faut veiller, qu'il faut prier. Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre. Un chrétien, il veille. Si vous ne veillez pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, on peut culpabiliser l'Église, on peut justement le déculpabiliser. Mais si vous ne veillez pas, c'est que la communion avec Dieu ne vous intéresse pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, et je suis prêt à l'entendre, quoique ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas ce désir de veiller, d'autant plus que le jour approche, et que tous ceux qui ne veillent pas, pourquoi les vierges folles, elles sont folles ? Parce qu'elles ne veillent pas. Jésus dit, veillez. Quand vous veillez, vous mettez de l'huile dans votre lampe. Quand vous priez, comme là, on est en train de veiller, on veille sur notre âme, je vous aide à veiller. Les pasteurs veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Mais vous devez vous-même veiller attentivement sur votre âme, tous les combien ? Tous les jours, c'est écrit ? Veille attentivement sur ton âme, tous les jours. Un chrétien, il veille. Je vous le dis, mes frères, je sais que des fois on me dit, monsieur Gau, vous n'êtes pas toujours fin. Je sais, ça je le sais. Mes frères et sœurs, si vous ne veillez pas, si vous n'aimez pas veiller, demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi d'aimer la prière. Donne-moi d'aimer de lire ta parole, de comprendre ta parole. Qui sera prêt ? Qui ne sera pas prêt ? C'est quoi l'enlèvement ? Vous voyez, plein de chrétiens confondent entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Depuis que Dieu a créé Adam et Ève, jusqu'au royaume de Dieu qui durera 1000 ans après le retour de Jésus-Christ sur la terre, qui sera le président du monde. Est-ce que vous voterez pour lui ? Oui. Jésus-Christ régnera sur la terre entière de Jérusalem. Ça vous va ? Oui, je pense que ça devrait être bien. Pendant 1000 ans, ça sera la dispensation du royaume. Depuis que Jésus a fait ce discours dans la synagogue de Nazareth, en parlant de cette année de grâce, nous sommes dans la dispensation de l'Église, ou la dispensation de la grâce. L'histoire a commencé, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « mais je ne comprends pas, Adam et Ève, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte parce qu'ils étaient nus ». Il y a 7 dispensations. La première, c'est la dispensation de l'innocence. C'est une période de temps où Dieu a créé l'homme de telle et telle manière. L'homme n'avait pas la connaissance du bien et du mal, donc il y a eu la dispensation de l'innocence. C'est pour ça que l'homme était et la femme étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte. Le test, écoutez bien pour comprendre les étapes. Le test, c'était il fallait qu'il ne touche pas de l'arbre de la vie, de l'arbre du bien et du mal, du fruit. Et c'était le test. Ils l'ont touché, vous savez ce qui s'est passé, et Dieu ce qu'il a été obligé de faire pour les sauver. Ils ont changé de dispensation, comme ils avaient la connaissance du bien et du mal, ils sont entrés dans la dispensation de la conscience, etc. Et chaque dispensation, le royaume, le gouvernement, la loi, etc., la promesse, ces dispensations, chacune comprend une condition. Parce que l'homme est libre. Si Dieu n'avait créé que le bien, l'homme aurait été esclave. Si vous ne vous pouvez pas choisir, si vous pouvez pas choisir, vous êtes quoi? Vous êtes esclave. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu a créé Satan? Pourquoi Dieu a créé le mal? Pourquoi? C'est, Dieu n'a pas créé le mal. C'est-à-dire qu'il y a le bien, et si vous n'acceptez pas le bien, vous choisissez le mal. Vous devez toujours pouvoir choisir. Si je dis à Timothée, qui est là, voilà, tu peux te marier avec Justine, je ne sais pas s'il y a une Justine à l'église, tu peux te marier, mais tu n'as pas le choix. Tu te maries avec elle, c'est tout. Est-ce qu'il est libre? Non. Il faut qu'il puisse se dire, quand même, est-ce que je peux choisir? Oui ou non? Dieu, la liberté existe par la responsabilité. Nous sommes libres d'accepter cette exhortation ou pas. Donc nous sommes dans la dispensation de la grâce. Elle a commencé au calvaire et elle se terminera à l'enlèvement de l'Église. Entre l'enlèvement de l'Église, ce qu'on a lu, Dieu ne veut pas que nous l'ignorions. C'est important que nous ayons de l'espérance. C'est bien la foi pour faire des expériences avec Dieu, pour obtenir une guérison, etc. Mais mes frères et sœurs, il y a des choses qui doivent absolument demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Il faut que nous ayons de l'espérance. Et Paul dit, mais je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est vrai que quand on a perdu quelqu'un et qu'il ne savait pas trop à l'époque ce qu'il en devenait, il dit, mais ne vous inquiétez pas, ceux qui sont partis, ceux qui se sont endormis, ils sont les morts. Il y a les morts en Christ, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont au paradis. Et il y a ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, qui sont dans un lieu de tourment en attendant le jugement dernier. C'est facile à comprendre. Après, ce n'est pas à nous de nous déterminer sur tout. Mais une chose est sûre, les gens qui sont morts, qui nous ont précédés, ou ils sont au paradis, ou ils sont dans un lieu de tourment. Les chrétiens, les morts en Christ, ressusciteront juste à l'enlèvement, avant que nous soyons quelques secondes avant. Une seconde avant, ce n'est pas écrit, juste avant. Que Dieu soit béni. Le corps qui est enterré dans la terre, qu'il a été inhumé d'une façon ou d'une autre, même brûlé. Au Moyen-Âge, ils brûlaient les chrétiens et ils dispersaient les cendres aux quatre vents parce qu'ils pensaient qu'en brûlant les corps, les chrétiens qui étaient brûlés ne participeraient pas à la résurrection des justes. Mais je pense que Dieu avait prévu quand même l'affaire. Et laissez-moi vous dire que Dieu, avec un atome qui reste, il peut ressusciter un corps. Parce qu'il s'appelle le Tout-Puissant. Dont les morts en Christ ressusciteront. Nous, si nous sommes vivants sur la terre à cette époque, nous allons être enlevés et nous serons tous ensemble enlevés dans la présence de Dieu pour les noces de l'agneau. L'autre jour, j'étais dans la voiture et je réfléchissais à tel texte. J'ai dit, tiens, mais c'était pendant un repas. Et je pensais à un autre texte. Tiens, c'était pendant un repas. Et j'ai pensé à trois ou quatre textes de la Bible et je me suis rendu compte que ces choses s'étaient passées pendant un repas. Comme quoi, vous voyez, la communion fraternelle, c'est archi important. Combien de choses peuvent se partager pendant un repas? Mais Jésus a commencé son ministère au niveau des signes par les noces de Cana, où il a fait quelque chose qu'il n'était pas obligé de faire, mais parce qu'il sait faire, il a changé l'eau en vin. Et le dernier miracle que nous allons percevoir, ça va être ces noces de l'agneau, où nous allons tous ensemble, avec tous les rachetés, nous retrouver. Quelle gloire, gloire, honneur et paix pour tous ceux qui suivent ces choses. Mais la tribulation, l'angoisse, vous l'avez lu avec moi, et la colère, pour tous ceux qui n'obéissent pas. Est-ce que vous entendez, mes frères et sœurs? Parce qu'entre l'enlèvement de l'Église, où personne n'y verra rien, en fin de compte, puisqu'on rejoindra Jésus dans les nuées, par contre, quand il est dit que tout œil le verra et qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, ça sera 7 ans après, quand il reviendra, pour régner, et enfin, cette prière que des millions de chrétiens ont fait depuis 2000 ans, que ton règne vienne, sera exaucée, tous les chrétiens, alors je ne sais pas comment ça se passera, parce que là, ce n'est pas clair du tout, mais nous régnerons avec lui. Sous quelle forme? J'en sais rien, ce n'est pas important. L'enlèvement de l'Église, une grande période de 3 ans et demi d'épreuves, de grosses épreuves, au milieu de cette semaine, parce qu'elle s'appelle la semaine, au milieu de cette semaine de 7 ans, il y aura 3 autres années et demie, où le dictateur mondial, et ce qui se passe aujourd'hui en France, écoutez mes frères et sœurs, ne vous paniquez pas, ce qui se passe sont des préludes à la préparation d'un gouvernement mondial qui dépendra de l'Europe. Si vous avez lu les prophéties dans Daniel, et même l'Apocalypse, pour bien comprendre, vous savez que c'est de l'ancien empire romain reconstitué que sortira l'Antéchrist, qui va faire un plan de paix avec Israël, qui va permettre la reconstruction du troisième temple à Jérusalem, etc. Excusez-moi l'expression, mais le gars qui va arriver à faire ça, laissez-moi vous dire qu'il sera fort. Et il sera admiré par la terre entière. Pendant 3 ans et demi, ça va être très chaud, parce que ces 3 ans et demi quand même sont remplis de signes terribles. Dès que l'Église est enlevée, il se manifeste. Dès que l'Église est enlevée. Mais au bout de 3 ans et demi, il va vraiment se révéler. Il va s'asseoir dans le temple à Jérusalem. Ça sera donc un juif de père ou de mère. Vous pouvez être sûr. Il va s'asseoir sur le temple et là, il va vraiment imposer au monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux être pris au premier voyage, moi je vous le dis. Il va imposer une dictature que tous les chrétiens auront sur la main droite ou sur le front, une marque où personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Et que tous ceux qui accepteront cette marque, parce que ce sera un régime de dictature politique, même au niveau de la religion, il n'y aura qu'une religion mondiale. Et tous les chrétiens qui accepteront Jésus-Christ seront tous décapités. Et ne venez pas me dire, mais t'es sûr? Écoutez-moi, je suis sûr. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ça s'appelle la colère de Dieu. Dans la deuxième épître, puisque nous sommes dans 1 Thessaloniciens, il parle du retour de Jésus. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous soyez conscients que si vous n'obéissez pas, vous connaîtrez la colère de Dieu. Vous pourrez vous convertir, mais enfin, il n'y aura plus la grâce. Aujourd'hui, pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors dites-moi, aidez-moi parce que j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? La dispensation de la grâce, elle est conditionnée par quel ordre de Dieu? La repentance et la conversion, qui fait qu'on est lavé par le sang du Seigneur. Si vous ne vous êtes pas repenti, si vous ne vous êtes pas converti, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Sans la conversion, si vous ne vous repentez pas, vous périrez, dit le Seigneur. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, Jésus parle du retour. Pas de l'enlèvement, du retour. Alors au verset 5 du chapitre 1er, il indique certaines choses qui sont liées à l'enlèvement, mais au retour aussi. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Je vous ferai remarquer qu'on a lu tout à l'heure cette expression. Elle revient souvent dans la Bible. Le jugement de Dieu, il sera juste. Ne vous imaginez pas un instant que Dieu se soit trompé. Si Dieu a créé le ciel, il sait très bien ce qu'il a fait. Si Dieu a créé l'enfer, il sait très bien ce qu'il a fait. Les gens, ils ont préféré les ténèbres. C'est écrit ça, que les gens préfèrent les ténèbres à la lumière? Jean chapitre 3. Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Le jugement de Dieu, le juste jugement, pour que vous soyez juges et dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. N'oublions pas que le Seigneur n'oublie pas nos souffrances. Il voit quand on souffre, quand une femme souffre parce que son mari ne la supporte plus, parce qu'elle est chrétienne, etc. Il sait que vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir. Alors, qui c'est que le Seigneur va punir? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux qui n'obéissent pas. Est-ce que vous comprenez l'importance? La grâce n'annule pas le fait que nous devons obéir. Quand le Seigneur vous interpelle, comme c'est le cas ce matin, vous dites, mais veillez, et vous serez prêts. Veillez, aimez veiller, aimez prier. Et vous serez prêts, aimez lire la Bible. Si vous n'aimez pas lire la Bible, j'y reviens. Eh bien, mettez-vous à genoux, Seigneur, mais j'en ai honte. Je devrais aimer lire ce livre. J'apprécie quand le pasteur prêche le dimanche. Mais j'ai honte. C'est un combat. Oui, c'est un combat. C'est compliqué. Je le sais. Seigneur, donne-moi de lire ta parole, je veux que ma lampe soit pleine d'huile quand tu vas revenir. Si vous n'obéissez pas, vous ne serez pas prêts. Est-ce que je l'ai bien dit ? Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Et vous lirez la suite au chapitre 2. On va le lire, tiens, on va le lire. On va le lire. Il y a beaucoup de textes. Il y a 137 textes qui nous parlent de l'enlèvement dans le Nouveau Testament. Donc, vous voyez, il y a de quoi lire. 137 textes. Chapitre 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc à l'époque, il y avait des faux docteurs qui avaient dit que Jésus avait déjà enlevé l'Église. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie... Alors, deux choses. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, il sera reconstruit. Lisez Ézéchiel et vous allez voir que après la guerre de Gog et Magog, le temple est reconstruit. Lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, avant qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et c'est l'Église qui retient cette affaire, la venue de l'Antéchrist. Il faut que l'apostasie, dans le monde, vous l'avez vu, je n'ai pas besoin de vous expliquer, c'est l'anarchie. L'anarchie et la rébellion qui s'intensifient, mais dans l'Église, enfin pas ici j'espère, mais dans l'Église de Jésus-Christ, c'est l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et nous devons absolument être sérieux avec ces choses. Donc, nous sommes dans la grâce. Cette grâce va s'achever en une fraction de seconde. À l'enlèvement. Des églises entières ne sont pas prêtes. Je vous le dis. Des églises entières ne sont pas prêtes. Pour le retour de Jésus-Christ, pour l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement, il va y avoir énormément de chrétiens dans certains pays qui vont disparaître. Ça va favoriser, il y aura un tel chaos que, laissez-moi vous dire, que les gens ne s'intéresseront pas trop longtemps au départ des chrétiens. Ils vont devoir gérer tout un tas de problèmes, à savoir que l'Antéchrist, quand il va venir, la première chose qu'il va faire, c'est enlever la paix de la terre. Pourquoi ? Parce que l'Église sera enlevée. La paix sera enlevée de la terre, et qu'est-ce que les hommes vont faire ? Vous avez vu, là, on est scandalisé parce que trois CRS ont pris un pot de peinture sur la tête, une boule de pétanque, etc. Et d'un des deux côtés, on souffre tous, parce que tous pourraient être des gens qu'on connaît. On est tous malheureux. Enfin, moi, quand je vois ça, je souffre autant pour les CRS que pour les autres. Franchement, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. D'accord ? Dans l'Apocalypse, la première chose, vous allez voir qu'une boule de... C'est grave, bien sûr, c'est grave ce qu'on voit, mais c'est rien. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, quand la paix sera enlevée, c'est rien. Le premier signe, les trois premiers chapitres nous parlent de l'histoire de l'Église. À partir du chapitre 4, Jean voit les événements du ciel. Il est au ciel. L'Église est enlevée. La présence des 24 vieillards sur le trône prouve que les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament sont avec lui. Le Seigneur Jésus ouvre les sceaux. Les sceaux caractérisent cette affaire de cette semaine de terrible qui vient sur la terre. Apocalypse 6, verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Parce que l'Église sera enlevée. Tant qu'il y aura l'Église, il y aura la paix. Même si elle n'est pas dans le cœur de tous les hommes et même dans le cœur de tous les chrétiens. Ça, c'est la faute des chrétiens, c'est pas la faute au Seigneur. Reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y aura plus le Saint-Esprit, il n'y aura plus l'Église, il y aura sur la terre une haine, les gens vont s'égorger les uns les autres. Et ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des prémices. La situation financière va être terrible. Regardez l'argent qu'il faudra pour acheter un kilo de pain. J'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et parut, voici un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendais, au milieu des quatre êtres vivants, une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier. » Trois mesures d'orge pour un denier. Un denier, c'est ce qu'un ouvrier gagnait dans la journée. Un ouvrier au SMIC, par exemple, il fait 8 heures à 10 euros. C'est ça, à peu près? Combien on gagne par jour au SMIC? 8 euros 8. 8 fois 8, 64. Eh bien, un kilo de pain, ça coûtera 64 euros. Si Sire Jésus revient maintenant. Je vous ne venez pas me prendre avec les chiffres. Je vous dis simplement qu'un kilo de pain coûtera le travail d'une journée. C'est ça. Je ne sais pas si nous nous rendons compte. Le troisième signe, regardez, mais mes frères et sœurs, c'est avant la grande, grande tribulation. Et ça, c'est rien. Quand j'ouvris le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. 7 milliards, 5 divisé par 4, ça fait 1 milliard 850 millions de personnes qui vont mourir. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Voyez un petit peu comment ça va partir. Une fois que l'Église est enlevée, la grâce est terminée. C'est le jour de la colère. Regardez pour ceux qui n'étaient pas là les dernières fois. Verset 16, il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face et de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister ?» Eh bien, tous ceux qui sont dans la grâce. Alléluia. Après, il y a beaucoup de choses. On en reparlera. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes dans la grâce de Dieu? Il vous faut répondre. Est-ce que vous êtes dans la grâce et dans la paix? Si vous n'y êtes pas, dépêchez-vous. Combien de temps il faut pour entrer dans la grâce de Dieu? Combien de temps il faut? Un instant. Seigneur, pardon. Pas pardon là. Pardon là. Mon Dieu, je te demande pardon. Je ne suis pas sérieux. J'obéis pas. Je ne veille pas. Je trouve plein de prétextes. Ah ben arrêtez, mes frères et sœurs. Je suis votre pasteur. Je vous en supplie. Le jour y arrive. La colère, elle vient. Tout ça, beaucoup de gens y croient sans y croire. Mes frères et sœurs, c'est qui a dicté ça? C'est notre Seigneur Jésus, qui dans son immense bonté nous a prévenu. Il aurait pu ne pas inspirer Jean. Sincèrement, vous ne croyez pas que Jésus aurait... On aurait pu ne pas avoir l'Apocalypse? Oui ou non? Mes frères et sœurs, la colère, elle vient. Si vous n'acceptez pas d'être prêt pour la grâce, la colère va venir. La colère va venir. Vous serez obligé de mourir si vous voulez aller au ciel. Obligé. Vous ne croyez pas que c'est mieux juste de se repentir et dire « Seigneur Jésus, je te demande pardon ». La condition de la dispensation de la grâce, c'est le sang précieux de Jésus-Christ, par une vraie repentance. Voilà comment aller au ciel, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est comme ça qu'on va au ciel. Mes frères et sœurs, soyez sérieux. Relisez si vous avez des questions, mais notez-les. Moi, je veux vous aider. Je dois veiller sur votre âme. Je veille sur vos âmes. Est-ce que vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Bloque-toi du temps quand il y a un truc qui nous plaît. On ne sait pas prendre une heure quand un truc nous plaît. Ça vous est jamais arrivé? Des fois, on est crevé. Allez, on va au resto ce soir. Béni soit Dieu si on peut le faire. Ça vous est déjà arrivé d'aller prendre un resto parce que vous étiez fatigué? Allez, dites-moi-le. Vous n'allez pas au resto? Personne. C'est une bénédiction, parce qu'on a besoin d'avoir une heure de détente, parce qu'on se détend vraiment. Mais est-ce que ce n'est pas quand même une vraie détente que de se tenir devant Dieu? Si ce n'est pas une détente, eh bien, demandons de l'aide. On continuera sur ce sujet, mes frères et sœurs, sur la différence entre la grâce et la colère. Je veux vous expliquer ces choses. Il faut que ça soit pratique. Si vous n'êtes pas dans la paix, c'est que peut-être vous avez de la grossièreté, entre autres. Si vous êtes grossier, moi je vous le dis, demandez pardon aux gens avec qui vous avez été vulgaire et remettez-vous d'équerre, parce que le Seigneur, il ne prendra pas les gens qui n'obéissent pas.